Alors, on va continuer maintenant notre parcours de la seconde épître à Timothée. J'espère que vous avez pu prendre le temps de lire, de relire chez vous cette seconde épître à Timothée. Voilà. Et je vais brièvement remettre tout cela dans le contexte de la lettre. Voilà, cette seconde lettre de Paul à Timothée est essentiellement une lettre d'encouragement écrite par Paul, un collaborateur qui est, semble-t-il, découragé, presque prêt à rendre les armes dans le combat du ministère et de sa vocation chrétienne. Paul et Timothée sont certes des collaborateurs, mais ils sont plus que des collaborateurs. Il y a des liens privilégiés, ils ont des liens affectifs. L'apôtre Paul appelle Timothée « mon enfant bien-aimé dans la foi ». Je vous rappelle aussi que cette lettre a été écrite en prison. C'est la dernière lettre de l'apôtre Paul que nous ayons. Il est, si vous voulez, dans l'antichambre de la mort. Il est dans le couloir de la mort. Il attend sa condamnation à mort. Il ne ressortira pas vivant de cette prison. Mais il est animé d'une foi extraordinaire, d'une foi forte, d'une espérance, je dirais, qui vient vraiment d'en haut. Il n'est pas le prisonnier des hommes, il se voit comme le prisonnier du Seigneur. Il appartient au Seigneur, il est son prisonnier, il est captif de Jésus-Christ. Il confesse dans cette prison que le Seigneur a réduit à néant la mort, que en Jésus-Christ apparu la lumière et la vie, l'incorruptibilité de l'éternité. Il confesse que le Seigneur tient sa vie dans sa main. Il dit ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, la couronne de justice m'est réservée. Timothée, quant à lui, est encore dans la course, mais il est un homme, je dirais, timide, confronté à des difficultés qui sont sérieuses et puis même à des questions intérieures qui sont sérieuses. Donc vous voyez le paradoxe, l'apôtre Paul est dans sa prison et c'est lui qui encourage celui qui est à l'état libre, l'homme libre. L'apôtre Paul continue de témoigner de sa foi et il encourage celui qui est libre à aller de l'avant pour communiquer sa foi. Voilà. Timothée est effectivement soumis à la pression de la souffrance qui est endurée par son ami et père spirituel. Voir Paul dans la prison, eh bien, c'est peut-être décourageant hein, de voir un ami, un frère, un père spirituel, un mentor, eh bien, être prisonnier pour sa foi. Mais aussi Timothée fait face dans son église et dans sa sphère d'action à un essor de fausses doctrines, de faux docteurs qui enseignent des choses erronées qui ne sont pas l'Évangile. Donc la pression sur Timothée est si forte que Paul juge nécessaire de l'encourager fortement. Et il l'encourage de plusieurs manières. Et nous avons vu là, dans les derniers cultes, dans les cultes précédents, comment l'apôtre Paul encourageait Timothée. Par le biais d'exhortations directes, vous savez, un petit peu comme un coach sportif le fait lorsque nous sommes coachés par un coach sportif. Moi, je ne le suis pas, mais je vois, je vois des personnes qui sont coachées comme ceci. Donc, ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi. N'aie pas honte de rendre témoignage. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saintes paroles. Garde le bon dépôt. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce. Hein. C'est un petit peu comme le coach là qui donne du rythme à la course d'un sportif, n'est-ce pas ? Allez, ne te laisse pas aller, va de l'avant, souffle un peu, continue, progresse, ne te laisse pas aller, voilà, puise dans tes ressources. Voilà une manière de faire pour aller face au découragement. Il encourage aussi, l'apôtre Paul encourage Timothée aussi par le témoignage, et il va citer des personnes qui ont été fortement puissant dans le témoignage. Il lui rappelle la foi de sa grand-mère et de sa mère. Il lui rappelle le témoignage donné si fort qu'il n'a pas eu honte des chaînes de Paul. Et il se donne lui-même en témoignage, expliquant à Timothée que même la souffrance qui est liée au refus de l'Évangile, ça fait partie de la vocation chrétienne. Et ça, c'est peut-être un message que nous devrions peut-être apprendre, nous aussi. Hein, Voilà. L'apôtre Paul va le dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de l'apôtre Paul. À garder. Et puis il encourage, Paul encourage aussi Timothée, au travers d'images simples que Timothée peut comprendre, qui sont tirées de la vie courante. Et Loïc nous en a parlé la semaine dernière. Des paraboles, des espèces de paraboles qui sont tirées de professions communes et qui frappent l'imagination. Le soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, qui est soumis à un seul maître. L'athlète qui s'entraîne et qui se met des règles pour gagner la course. Le cultivateur qui met tout en œuvre pour récolter les fruits et qui attend avec patience les fruits de son travail. Mais l'apôtre Paul aussi encourage Timothée par le rappel des bonnes doctrines, de la bonne doctrine, des saines paroles. Et j'en avais parlé, des paroles non pas saintes, mais saines, qui donnent une santé au corps, à l'âme, à l'esprit. Hein ? Et il rappelle que Jésus est celui qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nos capacités, mais à cause de son propre dessein et de sa grâce. Alors, mes amis, on peut lire cette lettre comme une lettre qui ne nous est pas adressée. Ce serait une lecture inconvenante. C'est très mal poli de lire une lettre par-dessus l'épaule de quelqu'un, n'est-ce pas ? Ou alors, on peut comprendre que le Saint-Esprit a adressé cette lettre à l'ensemble des croyants, pas simplement à Timothée, mais à l'ensemble des croyants que nous sommes. Je crois que ce n'est pas un hasard que le Saint-Esprit a voulu cette lettre de l'apôtre Paul à Timothée, que le Saint-Esprit a voulu cette lettre dans le canon biblique. Hein ? Le Saint-Esprit l'a voulu pour notre propre instruction et pour notre propre encouragement. Je voudrais insister ce matin, et chaque fois que je peux, j'essaie de l'insister, à chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes croyants et qui revendiquons le nom de chrétien, nous avons reçu un saint appel, chacun d'entre nous, un saint appel lié à l'Évangile. Je voudrais m'attarder sur le mot « appel » que l'on peut aussi donner comme synonyme « vocation ». Dieu nous a donné une vocation. Frères et sœurs, tous les chrétiens ont été appelés. Tous les chrétiens que nous sommes, si nous sommes chrétiens, nous avons répondu à un appel. Il y a eu une voix qui s'est imposée à nous, d'une manière ou d'une autre, et qui nous a dit, qui nous a adressé cet appel, « Viens et suis-moi ». Ce n'est pas simplement à Paul, pas simplement à Pierre, pas simplement à Timothée, mais à chacun d'entre nous qui sommes chrétiens. Il y a eu un moment ou à un autre dans notre vie, et c'est cette voix à laquelle nous avons répondu qui nous a donné la vie en Jésus-Christ. C'est cette voix qui a permis que nous naissions de nouveau et que nous nous mettions en marche à la suite de Jésus-Christ. C'est la même voie qui nous a amenés de la mort à la vie, qui nous a adressé un saint appel. Le salut ne se contente pas simplement au pardon des péchés et à l'octroi de la vie éternelle. Le salut se continue par une marche après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Nous sommes entraînés les uns et les autres qui, portant le nom de chrétien, nous sommes entraînés les uns et les autres à la suite de Jésus-Christ. Ok ? Tous, nous avons reçu un don et un talent ou un talent, qu'il soit charismatique ou qu'il soit naturel mais sanctifié par le Seigneur. Tous, nous avons reçu un don et un talent que le Seigneur nous appelle à mettre au service de la communauté et du corps. Ça va? Je ne dis pas une hérésie là? Est-ce que j'essaye de parler comme l'apôtre Paul? Or, à chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour l'utilité du corps. À chacun. Il n'a pas dit à Serge, tu joueras de la guitare. Il a dit à chacun. Bon, on ne va pas tout jouer de la guitare, hein, mais à chacun un don et un service particulier qu'on peut mettre au service du corps. Certains d'entre nous sont appelés à un service plus particulier pour le soin du corps. On les appelle les ministères. Mais ils ne sont pas des chrétiens première catégorie. Ils ne sont pas, comment on appelle les poulets, là, les premiers prix, là, les bons, là, cordon rouge, là. Fermier, cordon rouge, je ne sais quoi. Hein, label rouge, voilà, label rouge. Label rouge. Les ministères, ce ne sont pas des chrétiens label rouge. Nous sommes tous appelés à être des chrétiens label rouge. Les ministères sont soumis au même titre que les autres à cet appel premier de suivre Jésus-Christ. Ne dites pas, je n'ai pas d'appel. Vous feriez de la Bible un mensonge. Ne dites pas, je n'ai pas d'appel. Oui, vous avez un appel, celui de suivre Jésus, le Seigneur, qui vous a obtenu ce si grand salut. Et si par révélation ou par prise de conscience intérieure, nous recevons cela ce matin et nous le gardons pour nous, alors cette lettre de l'apôtre Paul nous sera d'un grand secours. Parce que au cours de notre marche avec le Seigneur, devrais-je dire, suite à sa course, à notre course à sa suite, nous serons tôt ou tard confrontés aux difficultés qu'engendreront notre appartenance à Christ. Tout à l'heure, je vous ai ramené 40 ans en arrière lorsqu'on se promenait avec des grandes bannières dans les rues de Nîmes. J'ai encore un autre souvenir en mémoire. Je ne fais pas les vieux combattants, hein, c'est pas ça, c'est pas mon désir, mais oui, je vais être encore un passionné pour Jésus, comme il nous était rappelé. On avait fait des grandes affiches. Alors, c'est dommage parce que je crois que j'ai plus de photos de ça. Et si quelqu'un de l'ancien temps avait ces photos-là, je donnerais presque 1000 euros. Allez, si vous me sortez ça. Oh là là, ils vont tous chercher. Allez, Loïc a trouvé. Bon, je me suis avancé. Retire ça de la bande, Alexis. Alors, sur ces affiches, c'était marqué « Vivre avec Jésus, c'est vivre ». Waouh, hein. Et c'était multicolore, hein, comme Jean, c'était Jean-Henri qui avait fait cette affiche. Vivre avec Jésus, c'est vivre. Et nous étions tous descendus en deux ou trois jours. On était à 4h du matin et avec nos pots de colle et on a vraiment sur tous les lieux où on pouvait mettre des affiches, on avait mis des affiches. Alors les Nîmois, lorsqu'ils se sont réveillés, je me rappelle plus quel jour c'était, mais voilà, vivre avec Jésus, c'est vivre. Vivre avec Jésus, c'est vivre. Et c'est vivre différemment, parce que Jésus nous communique la vie éternelle, mais il nous communique une vie qui se manifeste dans notre quotidien. On n'est pas seulement sauvé pour quand on sera mort. On est sauvé dès maintenant et la vie éternelle que le Seigneur nous donne, qu'il nous communique, eh bien, se déverse dans le quotidien. C'est-à-dire penser différemment, c'est-à-dire agir différemment, c'est-à-dire rendre le bien pour le mal, c'est-à-dire être généreux de notre temps, de nous-mêmes, être généreux de nos biens, c'est pardonner 7 fois, 77 fois, c'est parler avec grâce et avec sagesse. Oui, c'est vivre différemment et c'est aussi s'exposer à des calomnies. L'apôtre Pierre, il le dit ceci, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche ?» Et il explique comment ils étaient avant. Et puis, il vous calomnie. Vivre avec Jésus, c'est vivre. Et on vit différemment. Et parce qu'on vit différemment, eh bien, on peut être sujet à des choses, à des critiques. À Rome, à l'époque de l'apôtre Paul, les chrétiens ne fréquentaient pas les cultes idolâtres. Alors on disait d'eux, ils sont des athées. On ne les voyait pas apporter des sacrifices à Zeus ou je ne sais à Jupiter ou je ne sais quel autre dieu. Il y avait des foules de rumeurs qui se propageaient. Ils adorent une tête d'âne. On ne sait pas ce qu'ils se font dans le milieu des chrétiens. Ils boivent du sang. Quelle abomination. Ils pratiquent des orgies. Quelle abomination. Aujourd'hui, il y a encore ce même genre de rumeurs qui peut se mettre à notre égard. Les chrétiens, ce sont des personnes intolérantes. Ce sont des personnes homophobes. Ils sont embrigadés dans leur petite secte. Ils donnent leur dîme. Vous vous rendez compte ? Ils sont ennemis du genre humain. Alors ça, c'est le genre peut-être que les gens qui ne connaissent pas le milieu chrétien peuvent percevoir. Mais c'est faux. C'est faux. Alors, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous n'aimons pas ne pas être aimés. Nous n'aimons pas ne pas être appréciés. Mais ça peut être notre lot de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. Certains verront le parfum de vie que nous portons par le Saint-Esprit et d'autres seront dérangés. Ils ne ressentiront à notre égard qu'un parfum de mort, comme dit l'apôtre Paul. Parce que les choses de Dieu ne sont pas aimées par ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière. Nous sommes appelés à être sel et lumière, mais certaines personnes ne veulent pas de lumière chez eux. Et parce qu'ils ne veulent pas de lumière chez eux, eh bien, ils vont nous critiquer, ils vont nous dire telle ou telle chose sur nous, et nous n'aimons pas, bien sûr, qu'on dise telle ou telle chose sur nous. Mais c'est notre lot si on veut vivre vraiment de manière chrétienne, si on veut manifester la vérité qui est dans l'Évangile. Alors, mes frères et sœurs, je suis poussé, j'espère, par le Saint-Esprit, à insister et à appeler à nouveau. Avons-nous conscience, avez-vous conscience de ce saint appel, de cette vocation à marcher à la suite de Jésus, en abdiquant notre prétention, en désirant le règne de Jésus-Christ sur nos vies entières, en portant notre croix comme le Seigneur l'a demandé à ses disciples? Est-ce que nous sommes conscients de cet appel? Est-ce que nous sommes conscients de cette vocation? Chacun d'entre nous. Alors cette lettre de Paul, si nous répondons oui, cette lettre de Paul à Timothée deviendra la lettre que le Saint-Esprit m'adressera à moi personnellement. Lettre du Seigneur à Norbert. Lettre du Seigneur à Serge. Lettre du Seigneur à Jean-Luc. Vous pouvez mettre chacun votre nom. Alors je voudrais simplement qu'on prenne 2 secondes, 10 secondes, 20 secondes, soit en fermant les yeux et en répondant au Seigneur, tout simplement. Seigneur, moi je veux te suivre, je veux marcher dans cette vocation, dans cet appel. Je ne veux pas me rebiffer, je ne veux pas dire non à cet appel. Je ne veux pas seulement me contenter du pardon du péché, mais Seigneur, tu m'as appelé aussi à marcher derrière toi. Je veux le faire. Alors prenons le temps de répondre à chacun pour soi. Amen. Alors maintenant que nous avons pris le temps de répondre à nouveau intérieurement à cet appel, je voudrais qu'on lise ensemble 2 Timothée 2, 8 et 9. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Souviens-toi de Jésus-Christ. Rappelez-vous, le but de la lettre, c'est de nous encourager et de mettre fin, je dirais, à nos réticences, à nous mettre en route dans notre vocation, ou de nous encourager à reprendre la route de notre vocation, hein, avec une ardeur et une passion renouvelée. Pourquoi y a-t-il cette exhortation à nous souvenir de Jésus-Christ ? Paul insiste sur deux caractères de Jésus-Christ. Il est ressuscité des morts, il affirme ainsi sa divinité, il est issu de la descendance de David, c'est-à-dire il affirme son humanité parfaite. Et il me semble que si Paul insiste sur ces deux caractères de Jésus-Christ, c'est pour affirmer face au faux docteur qui a pu encombrer l'église d'Éphèse, là où Paul exerce son ministère, il affirme la solidité de la doctrine de qui est Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu. Certains disaient à l'époque de Timothée, on le lit dans, plus tard dans l'Épître, que certains même disent que la résurrection avait déjà eu lieu. Puisque le Saint-Esprit était donné, ça veut dire que le Saint-Esprit était déjà là. On règne déjà, on est déjà pratiquement dans le ciel, c'est le ciel sur la terre complètement. L'apôtre Paul veut rappeler ce genre rectifier ce genre de doctrine. Mais ceci dit, c'est incroyable. Y a-t-il une tentation dans la vie chrétienne, à la suite de Jésus, d'oublier le Seigneur? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes arrivé d'oublier le Seigneur? Alors, nous allons mettre de côté l'explication de la perte de mémoire cérébrale. Hein ? S'il y a une perte de mémoire, à mon avis, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Hein ? Et je trouve deux explications à cette exhortation. La première, nous pouvons oublier Jésus-Christ, car notre vue est bouchée par les problèmes rencontrés. On oublie le Seigneur, on oublie qu'il est ressuscité des morts, qu'il est vainqueur sur la mort, parce que les problèmes que l'on rencontre sur notre vie, sur notre chemin de vocation, est tellement gros que cela nous bouche la vue. C'est, je dirais, l'effet Goliath, qui a un effet paralysant et qui obstrue la vie. Hein ? Ce Goliath qui est devant moi, dans ma marche dans le ministère, est tellement grand. Hein ? Il fait plus de 2,50 m. Voilà, vous connaissez la boutade hein, que quelqu'un a mis dans la bouche de David lorsqu'il répond à Saul, mais lorsque Saul lui demande « Mais tu n'as pas peur de ce géant ? Il mesure 2,50 m, il est grand, il est fort. » Et David répond « c'est extra-biblique, hein. Ne trouvez pas ça, il n'y a pas de référence. » Il dit « Mais il est tellement grand que je ne peux pas le rater hein, avec ma fronde. » Dans le découragement, notre jugement est faussé. Notre regard se porte sur tout ce qui ne va pas et nous oublions que Jésus est vainqueur, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité des morts. Certains peuvent dire, à quoi bon entrer dans la vocation chrétienne? Il y a tellement d'obstacles. Quand je veux être témoin de Jésus-Christ, on ne m'écoute pas. Même on se moque de moi, on me regarde comme venant d'une autre planète, comme un malade mental, comme un arriéré. Hein? Oui, les chrétiens qui croient quand même que Jésus-Christ est sorti du tombeau, pour certains, c'est du Moyen-Âge. Hein? Alors, certains pensent que ces obstacles sont trop grands pour l'Évangile. Alors, on abandonne notre appel de témoin, on abandonne notre vocation, on a peur de dire « Jésus ressuscité d'entre les morts hein ». Mais l'exhortation « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Lui aussi, il a rencontré des obstacles sérieux. On n'a pas cru en lui, ok ? S'il est mort sur la croix, c'est parce qu'on n'a pas cru en lui. Certains ont considéré que Jésus sur la croix, Jésus méritait la peine de la croix. Alors que cette injustice flagrante accomplissait la justice de Dieu. Cette justice a été prouvée par la résurrection d'entre les morts. En fait, frères et sœurs, lorsque nous nous souvenons de Jésus-Christ, nous oublions qu'aucun problème n'est si gros, en fin de compte. Lorsque nous nous souvenons de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, nous oublions qu'aucun problème n'est si gros, en fin de compte. Poussons les problèmes de côté, ou si on n'arrive pas à les mettre de côté, essayons de les voir d'un peu plus haut, afin de nous souvenir de Jésus-Christ. Repassons en mémoire et en pensée ses œuvres et ses paroles. Prenons une bonne dose d'évangile. Prenons une bonne dose d'évangile. Matin, midi et soir. ordonnances du Seigneur. Ça, c'est une bonne médication contre la perte de la mémoire spirituelle et un collyre sur nos yeux pour voir les choses à sa juste place. La deuxième explication à cette exhortation de nous souvenir de Jésus-Christ, c'est lorsque nous sommes face non plus à des problèmes qui nous bouchent la vue, mais nous sommes face aux exigences de l'Évangile. Waouh ! Face à la vocation chrétienne, face à la sanctification demandée, nous nous épuisons à trouver les ressources en nous-mêmes, car nous croyons encore en nous. Nous croyons pouvoir être agréables à Dieu par nous-mêmes. La vocation chrétienne ne consiste pas à vouloir être agréable à Dieu, elle consiste à être en Christ, à être en celui à qui le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Frères et sœurs, c'est dommage, vous avez raté une bonne étude biblique hier matin. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère qu'elle sera sur le site cette semaine. Mais si vous pouvez, si vous voulez tout savoir sur la justification par la foi, je vous conseille d'aller sur le site et d'écouter cette étude biblique. Franchement. Le mois prochain, nous aurons une étude biblique sur la sanctification. Voir quelle est l'œuvre du Seigneur en nous qui nous transforme. Je vous conseille d'être là, franchement. Alors, il y a cette tentation dans la vie chrétienne, dans la vocation chrétienne, eh bien d'y arriver par nous-mêmes. Stéphane le disait tout à l'heure, lorsque quelqu'un vient l'aider, eh bien, il en apprend l'humilité. Hein ? Eh bien, dans la vocation chrétienne, à un moment donné, il faut abdiquer aussi nos prétentions. On ne sera jamais à l'exigence de la vie chrétienne. Ce n'est pas nous qui tenons la vie chrétienne, c'est le Christ qui tient dans ses mains notre vie chrétienne. Voilà. Hein ? L'apôtre Paul il dit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Nous sommes appelés à puiser nos forces en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à ne pas oublier le Seigneur, à nous souvenir de lui. C'est lui qui a fait tout pour nous. C'est lui qui s'est donné pour nous. Hein ? Alors oui, lorsque nous regarderons à Jésus-Christ et à son œuvre, le Saint-Esprit nous donnera de l'aimer et à aimer ce qu'il veut pour nous. C'est lui, en regardant à Jésus-Christ, qui nous donnera la passion de marcher à sa suite. C'est lui qui nous donnera la force, l'énergie, la grâce de marcher derrière lui et avec lui. Quelqu'un a dit, un des réformateurs, je ne sais plus lequel, Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Jésus est le roi de la descendance de David, Dieu fait homme, homme parfait, l'inaugurateur d'un nouveau règne, le dernier Adam, le capitaine de notre foi, celui qui l'amène à la perfection. Alors, se souvenir de Jésus-Christ, bien, c'est mettre Jésus-Christ à la bonne place, à la juste place, sur le trône de notre vie. C'est vivre par lui et pour lui, et tout cela vient de lui. Hein ? C'est renoncer à notre propre gouvernement sur nos vies, c'est abdiquer notre propre royauté, c'est vivre joyeusement dans une dépendance quotidienne à son service. Mes amis, si suivre Jésus nous amène à être liés comme un malfaiteur, alors soyons liés comme des malfaiteurs. En France, les chrétiens ne vont pas en prison à cause de leur foi, mais ils s'emprisonnent eux-mêmes à leur maison parce qu'ils ont peur de parler de leur foi. Il y a une forte pression à être bâillonné dans notre société, à rester chez soi. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, la parole de Dieu n'est pas bâillonnée. Hein ? La parole de Dieu a créé l'univers. Si on se tait, les pierres crieront. La parole s'est manifestée par les prophètes au cours des siècles, dans les derniers temps. Depuis la venue de Jésus-Christ, Dieu nous a parlé par Jésus-Christ, parce que la parole s'est incarnée. Voilà. L'apôtre Paul, dans la lettre de Timothée, va remettre au milieu la place de la parole. Il va dire, Timothée, prêche la parole. fait œuvre d'évangéliste. La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour éduquer, pour redresser, pour rendre capable tout homme capable pour des bonnes œuvres. La parole de Dieu a une puissance active, elle n'est pas liée. Peut-être tu es en situation de ne pas la parler, cette parole, de ne pas la témoigner pour l'instant. Alors sache que si tu te tais, cette parole, elle va aller continuant quand même. Plonge dans son courant. Toi qui n'as pas l'habitude d'ouvrir la bouche pour parler de ta foi, plonge dans le courant de la parole de Dieu qui est en train de se mouvoir. La parole de Dieu n'est pas bâillonnée. Sans la force de la parole de Dieu, lorsque au nom de Jésus tu auras dit simplement à quelqu'un « Je crois en Jésus, mon Sauveur et Seigneur qui désire être le tien. » Tout le monde, tous les chrétiens à qui Dieu a adressé un saint appel est capable par le Saint-Esprit de dire cela à un voisin, une voisine, un compagnon de travail, à un homme dans la rue. Je crois en Jésus-Christ, ressuscité des morts. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Marchez dans votre vocation derrière le Seigneur qui vous a appelé.